Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René Chemin de Pensée sur RCF. Prenez place dans cette agora radiophonique pour découvrir les chemins de la philosophie, les textes de la philosophie et pour penser notre temps. Et aujourd'hui, c'est avec le physicien Jean-Marc Leville-Leblon que nous allons essayer de réfléchir à notre temps. Donc vous êtes autour de la table de la gauche vers la droite avec Nicolas Lemoine, Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès. Alors les questions que nous allons nous poser sont les suivantes. Qu'est-ce que la science ? Comment la science se situe-t-elle par rapport à la technique, par rapport à l'art ? Quels sont les rapports donc entre art et science? La science entre-t-elle dans le champ de la culture? Quel rapport entre science technique et accès à la vérité? Et enfin, quelle nécessité y a-t-il à parler de technoscience? Avant de parler de cette, enfin, de commencer à parler de l'ouvrage du texte de Jean-Marc Lévy-Leblon qui s'appelle Le Grand Écart, la science entre technique et culture, nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine qui va nous rappeler le résumé, nous rappeler l'essence, le contenu de
nos échanges la dernière fois sur ce même ouvrage. Alors, nous avons abordé la dernière fois donc, un texte de Jean-Marc Lévy-Leblon intitulé Le Grand Écart, la science entre technique et culture, compte rendu d'une conférence qu'il a donnée sur la question de la science, de sa nature, de son articulation avec la technique et la culture, à une époque où cette articulation tend à changer radicalement. Qu'est-ce que la science ? Jean-Marc Lévy-Leblon définit la science comme une activité ayant pour but la connaissance elle-même. Cette activité suit une méthode, les connaissances acquises étant inséparables de la démarche qui a permis de les obtenir. Démarche rationnelle, logique. Qu'est-ce que la technique par rapport à la science ? La technique repose sur la simple maîtrise directement appliquée à un art et que cet art permette la survie du groupe humain ou l'expression du beau à travers les beaux-arts. La science ainsi définie apparaît très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Une condition nécessaire à son émergence est l'écriture qui permet de transmettre des idées abstraites, signe d'une prise de distance avec l'objet considéré. La première science, au sens où Jean-Marc Lévy-Leblon l'a définie, est une science hypothético-déductive, les mathématiques, qui apparaissent en Grèce. Jean-Marc Lévy-Leblon observe que son développement est indépendant de la technique. Les techniciens n'ont pas besoin du niveau d'abstraction tel celui atteint par Euclide. Il leur suffit d'avoir des procédés qui marchent pour mesurer la surface d'un champ ou élever des monuments. De l'autre côté, les mathématiciens sont plus proches des philosophes dans leur recherche du vrai. Les philosophes voyant dans les mathématiques un exemple où le raisonnement, le discours argumenté, permet d'accéder au vrai, en espérant atteindre par ce moyen la science politique, celle des lois organisant la cité. Nous terminons avec la figure de Galilée, illustrative de l'aube du XVIIe siècle, où les sciences de la nature cessent d'être spéculatives pour devenir expérimentales. Et où ceux qui pratiquent la philosophie naturelle pratiquent également d'autres arts utiles ou agréables, comme la musique ou le dessin. Reste à élucider ce que signifie expérience dans le cadre de la science de l'époque moderne, des présupposés métaphysiques qu'implique cette démarche expérimentale, mettant notamment en avant le rapport au vrai. Reste à voir également si cette conception de la science élaborée au XVIe-XVIIe siècle n'en est pas aujourd'hui au stade d'un nouveau glissement de sens et de pratique, et si donc ce changement de sens et de pratique n'est pas en train de s'opérer à l'époque contemporaine.
Merci Nicolas. Alors, je vais vous lire un petit passage de Jean-Marc Lévy-Leblon. Mmh. Lors de l'émission précédente, Anne avait rappelé un passage de cette conférence où Galilée, pour mesurer les temps parcourus par les mobiles, n'avait pas d'horloge précise. Et donc Anne nous avait dit qu'elle avait aimé le fait que, remarquant que le pouls n'était pas assez précis, il s'était mis à chanter. Et donc c'était sa culture musicale, et à battre la mesure, hein, qui l'avait aidé. Il y a un autre exemple qui est donné par Jean-Marc Lévy-Leblon. Il nous dit « Thomas Ariot, un scientifique anglais, a observé la Lune dans un petit télescope en 1609, c'est-à-dire grosso modo un an avant Galilée, et en a fait des dessins. Ce qui est frappant, c'est que du point de vue purement cartographique, les dessins de Ariot sont un peu plus précis quant au tracé des zones sombres et des zones claires sur la Lune que les très fameuses aquarelles lunaires de Galilée. En revanche, ils ne disent rien de la réalité physique, ne transmettent aucunement le sentiment du relief sur la Lune. Contrairement aux représentations de Galilée, exécutées avec toutes les techniques picturales qu'il maîtrise, le clair-obscur, les effets de perspective, etc., où le relief des cratères vous saute littéralement à la figure. C'est parce que Galilée est capable de reproduire le relief qu'il est capable de le voir. Ça, je trouve ça remarquable. Donc, dans ce rapport entre science et culture, Jean-Marc Lévy-Leblond nous semble nous dire, un peu aussi par rapport à ce que tu disais, Nicolas, maîtriser, enfin pas maîtriser, mais connaître la musique ou connaître le dessin, ce n'est pas seulement un passe-temps, ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'être aussi en rapport avec le réel et de voir le réel tel qu'il est. C'est peut-être même le sens du mot épistémé chez les Grecs, hein, qui a donné ensuite épistémologie.
C'est un mot qui revient souvent chez Jean-Marc Lévy-Leblond, où il insiste sur la nécessité d'un certain éclectisme chez les scientifiques qui ne devraient pas s'intéresser uniquement à la science.
Voilà. Alors je vous pose la question, que s'est-il passé? Comment on peut expliquer aujourd'hui ce divorce entre culture d'une part et science de l'autre part? Est-ce que vous le ressentez aussi dans vos métiers, puisque nous sommes tous ici des scientifiques? Est-ce que vous en ressentez un problème par rapport à ça?
Ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une sorte de cloisonnement qui s'est fait au niveau même de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on se spécialise après déjà un peu au lycée, puis après à l'université, par exemple, il est clair qu'on prend une voie et il y a quand même une scission franche entre la culture, par exemple, les humanités,
oui,
ou les arts et les sciences. Donc, il y a effectivement cette séparation qui s'est faite. Alors, c'est pas faite d'un seul coup, hein, c'est... Et d'ailleurs, Jean-Marc Lévy-Leblond, il en parle avec l'apparition des académies et puis après des universités qui ont eu tendance à effectivement séparer les choses petit à petit. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette scission un petit peu actuelle, quoi.
Oui. Alors, quel type de problème ça peut engendrer? Est-ce qu'on va s'en contenter, en fait, de cette scission, de ce divorce? Est-ce qu'on peut y remédier? Et quel rapport au vrai ça peut nous indiquer sur notre temps, en fait?
Alors, tu dis comment peut-on y remédier? Ça veut dire qu'il y a un problème.
Déjà, effectivement, voilà. Alors, y a-t-il un problème?
Il y a un beau contre-exemple, ce sont les travaux de Despagnat en mécanique quantique, où Bernard Despagnat, donc un physicien du XXe siècle, a conçu des expériences qui étaient motivées en fait par un problème de philosophie. C'est-à-dire que le problème qui était posé en fait était posé d'une manière qui était contraire à la philosophie de Kant. Et en suivant donc avec rigueur les prescriptions de Kant, Bernard Despagnat a pu trouver, faire des découvertes et régler un problème de physique.
Alors Bernard Despagnat, c'est un physicien de l'époque récente, hein, qui est mort il y a quelques années. Hein, mm-hmm. Je ne sais pas quelle année il est mort. Il y a peut-être une dizaine d'années.
Moins que ça,
d'accord. Voilà. Alors ce qui est drôle, c'est que, par exemple, un grand nombre de physiciens allemands, on pense bien sûr à Einstein, on pense à Schrödinger, et puis il y en a un autre qui est très célèbre, avait une formation philosophique très très développée. Hein, donc ça c'est quelque chose aussi que Jean-Marc Lévy-Leblond ne dit pas, mais il aurait pu citer ça, oui, c'est des bons exemples. Alors aujourd'hui, Anne, par exemple, tu nous disais que dans le domaine de la linguistique, on s'en fichait un peu, par exemple, de connaître vraiment quelle était la structure du langage, puisque ce qui décide, par exemple, l'analyse du langage, ou de la parole, hein, de la parole parlée, pas de la parole signifiante, mais de la parole en tant que son, suite de phonèmes, elle se fait par des machines qui sont des réseaux de neurones et qui apprennent finalement à segmenter le langage, c'est ça?
Oui, non, ils ne segmentent pas, justement. C'est un de leurs grands problèmes. Ils n'arrivent pas à segmenter, on aimerait bien. Mais ils le font assez mal. En fait, pour reconnaître une phrase, par exemple, on utilise des modèles statistiques assez compliqués. Avant, c'était des modèles de Markov. Maintenant, ça commence à être encore d'autres choses. Ça peut être des réseaux de neurones, ça peut être le deep learning. Bon, je passe là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, en utilisant tous ces modèles, comme le nom l'indique, hein, ils vont modéliser...
Un modèle, c'est un objet mathématique.
Oui. Finalement, on perd complètement de vue l'objet lui-même, le son, par exemple. Donc, on sait qu'il y avait eu, dans les années 40, à peu près, il y avait ce qu'on avait appelé « visible speech ». C'est-à-dire qu'il y avait des Américains qui avaient inventé une machine qui permettait, c'était un spectrogramme tout bêtement, qui permettait grosso modo d'analyser la parole avec un espace à trois dimensions, on pouvait reconnaître les sons. Et on pouvait reconnaître assez difficilement, mais plus ou moins une phrase. Donc maintenant, on n'a plus besoin de ça. Les gens qui utilisent ces modèles pourraient les appliquer sur d'autres choses. Et ils n'ont pas vraiment besoin de connaître les sons. Ils n'ont pas besoin d'avoir de connaissances là-dessus. Et on peut se demander si... Ben déjà, ça ne va pas leur jouer des tours, parce qu'on a quand même... Des fois, ils ont besoin d'avoir justement de la parole segmentée pour lancer leur modèle. Et on peut se demander si on ne va pas perdre de la connaissance.
D'accord. Mais finalement, ce reproche qu'on dit de ne pas connaître, de ne pas avoir de théorie, hein, c'est ça, hein, c'est... d'abstraction, etc. Parfois, ça marche. On citait tout à l'heure, enfin, on discutait tout à l'heure de l'exemple cité par Jean-Marc Lévy-Leblond, celui de la radio.
Ah oui, complètement. Alors là, effectivement, on a un bon exemple. Alors, c'est pas la radio, hein, c'est avant, en fait, c'est la dynamo. Effectivement, donc c'était... Alors, je retrouve un petit peu le passage, parce que là, c'est vraiment intéressant de redonner un petit peu le contexte précis. Hein.
Mais pendant que tu le cherches, je dirais, ça marche, on est dans le domaine de la technique.
Oui.
On n'est pas dans le domaine de la connaissance et de la science.
Exactement. Donc, c'est une compétence qui permet de faire les choses et que ça fonctionne, effectivement. Donc, l'idée, hein, c'est que Jean-Marc Lévy-Leblond rappelle que la dynamo, elle a été inventée donc, au 19e, hein, en 1868, de façon artisanale par un menuisier, en fait.
Ah oui.
C'est marrant, un menuisier belge, donc Zenob Gram.
Ah oui.
Et donc, il a inventé la dynamo. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il aurait dit, après avoir vu les théories de la dynamo mises en équation plus tard, hein, en 1881, « S'il m'avait fallu savoir tout cela, je ne l'aurais jamais inventé. »
Ah oui, d'accord.
C'est beau, oui. C'est rigolo de voir, oui, finalement, quelque part, le vertige que la théorisation et la modélisation mathématique peuvent donner à des gens qui inventent des choses concrètes.
Mmh. Alors, pour revenir à l'exemple d'Anne, finalement, on peut peut-être parfois aussi inventer des choses remarquables sans en comprendre les mécanismes.
Exactement, oui. C'est ça.
C'est même ce qui s'est passé au sein de l'humanité pendant des siècles.
Ça, oui.
Même après le début de l'apogée des sciences au XVIIe, pendant plusieurs siècles, ce sont les sciences qui ont bénéficié de la technique, hein, c'est ce que raconte Jean-Marc Lévy-Leblond. Et l'apport des sciences pour développer des techniques, ça ne démarre qu'au 19e.
Oui.
Et c'est donc le deuxième exemple avec l'électromagnétisme.
Voilà, exactement. Là, pour le coup, il y a un bon exemple qui est assez marquant, donc à la fin du 19e siècle, hein, où effectivement, il y a une découverte scientifique, donc là, qui est purement théorique au départ et qui va donner effectivement des applications concrètes importantes. Donc, je vous lis le petit passage, hein, de Jean-Marc Lévy-Leblond qui en parle. Donc, on arrive ainsi à la fin du 19e siècle, où pour la première fois, me semble-t-il, va apparaître une situation nouvelle, une découverte théorique abstraite, fondamentale, permettant un développement technique qui n'aurait pas pu voir le jour de façon empirique. Je pense ici à l'électromagnétisme. Sans la théorie des ondes électromagnétiques de Maxwell, impossible d'inventer la radio, parce que les ondes électromagnétiques sont impalpables par nos sens. Donc c'est intéressant de voir qu'on ne pourrait pas faire cette émission sans l'électromagnétisme de Maxwell, enfin les équations de Maxwell, et qui ont permis justement l'invention de tous les appareils technologiques.
Et on peut rajouter que les équations de Maxwell ont été complétées à cause d'une réflexion purement théorique. Et le terme qui a été ajouté, c'est celui qui permet de faire apparaître les ondes électromagnétiques, donc c'est-à-dire la lumière, par exemple, donc les ondes radio.
Ce qu'on est en train de dire, c'est que là, c'est les compétences mathématiques, stricto sensu, qui ont commandé...
Mathématiques et physique.
Oui,
les équations de Maxwell, sans ce terme supplémentaire, il y avait une contradiction avec une loi de conservation de la physique, qui était la loi de la conservation de la charge. Et donc, on a rajouté un terme pour que la loi de la conservation de la charge soit vérifiée. Et ce terme-là, rajouté dans l'équation de Maxwell, permet de faire apparaître une équation d'onde pour le champ électromagnétique.
Mais philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le monde est écrit dans un langage mathématique, comme le dit Galilée, et qu'il nous reste qu'à trouver les bonnes lois mathématiques pour comprendre le monde ? Est-ce que c'est ça que vous en comprenez ? Et donc, pour le coup, faudrait toujours faire passer la science avant la technique.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, ou plutôt, oui, c'est un peu surprenant, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. On voit bien que l'humanité n'a pas évolué comme ça. Et justement, elle n'aurait pas pu. Parce que pour faire passer la science avant la technique, ça veut dire qu'il faut avoir déjà une abstraction et pouvoir concevoir, réfléchir sur des modèles. Et pour avoir ça, il faut avoir à un moment donné, quand même, au départ, une base concrète. Alors, qui peut être l'expérimentation.
Et puis, je ne comprends pas ta question, en fait. Faire passer la science avant la technique, mais dans quel but ? À quoi veux-tu arriver quand tu dis cela ? Est-ce que tu veux développer de nouvelles techniques ? Est-ce que tu veux développer la connaissance ? Est-ce que tu veux développer une représentation du monde ? Est-ce que tu veux répondre à un souci du vrai ?
C'est ça. La question, c'est, imaginons, on se place dans un monde à la Platon.
Oui.
Il y a le vrai qui est là-haut,
oui,
qui coïncide avec le bon, le juste,
oui,
etc., et qui irradie sur le monde.
Oui.
Eh bien, si je ne fais que chercher que ça marche... comme ce que reproche Anne, hein. C'est bien ça que tu reproches à tes collègues qui font des réseaux de neurones, non ? Ou tu as d'autres
passages ? Non, je ne leur reproche rien.
Oui.
Ils...
Ah, d'accord, ils font
ce qu'ils font. Très bien.
D'accord. Alors, dans ces cas-là, voilà, je manque la vue du vrai si je ne m'intéresse qu'au ça marche. C'est ça que je veux dire. Donc, au fond, il faudrait toujours avoir comme souci le vrai. Et ici,
il faudrait,
y avait une discussion intéressante, on en discutait il y a quelques temps avec Nicolas, sur la relativisation du vrai, en fait, qui pourrait amener à quelque part à une remise en question de la science même.
C'est-à-dire que ton monde des idées, il faut y croire.
Oui.
Hein, le monde idéal qui se projette dans l'espace sensible, dans le monde sensible, ou le monde sensible comme étant une image ou une ombre du monde vrai.
Oui.
C'est presque une religion quelque part.
Mmh.
Et alors bon, elle a été quand même reformulée au cours des siècles. Hein. On reste pas forcément dans une vision purement platonicienne, mais on arrive à un moment avec Nietzsche qui fait dans son livre le
Crépuscule des idoles,
le Crépuscule des idoles, où qui fait une critique du monde vrai, histoire d'une erreur, et où il part effectivement de cette conception platonicienne, le monde vrai accessible à l'homme sage. Ensuite, le moment chrétien, où le monde vrai est accessible à l'homme juste et contrit, mais accessible uniquement après sa mort. Et puis ensuite, le moment kantien, je ne sais pas comment on dit, où le monde juste n'est plus que postulé, il sert comme horizon, mais il est inaccessible. Puisqu'on n'a plus accès qu'au monde sensible, qui est le monde dans lequel nous vivons, et le monde vrai derrière, il est postulé. Mais le fait qu'il soit postulé motive la recherche scientifique, puisqu'on s'efforce d'aller vers lui. Alors après, quand Nietzsche dit que le monde vrai est une erreur, et que l'idée de vérité commence à être mise en cause, du coup, il n'y a plus d'intérêt à chercher après. Il suffit que ça marche.
Oui, alors ça, c'est intéressant. Si je veux résumer un petit peu, ramasser ce que tu as dit, ça veut dire que tout scientifique n'est pas nietzschéen, puisqu'il croit qu'il y a un vrai, quel que soit, même si c'est un vrai relatif, même si c'est un vrai qui...
Inaccessible,
c'est un vrai qu'on ne peut qu'approcher, etc. Mais il y croit qu'il y a cette chose-là.
C'est ça.
Est-ce que tu es d'accord avec ça, Anne, ou tu voulais parler d'un passage
un vrai, un vrai plutôt que le vrai, mais c'est aussi pour répondre à ta question d'avant. Tu dis, est-ce qu'il faut forcément avoir la science qui précède, etc. Moi, je dirais que la question, elle est même plus là. La question est, est-ce que on va encore exister ? Est-ce qu'il ne faut pas dire ne disparaissons pas, on peut encore être utile, tu vois.
Ça, c'est
voilà,
ça,
c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le formuler.
C'est la conclusion de l'ouvrage. C'est la conclusion de Jean-Marc Lévy-Leblond, effectivement. Ouais.
Alors, je vous propose simplement d'écouter la voix de Jean-Marc Lévy-Leblond lors d'une émission où il présentait son livre qui s'appelle Au contraire, et il va dire pourquoi il s'est intéressé finalement à cette question des rapports entre culture et science, et peut-être que ça va éclairer le point que tu soulèves, Anne, sur notre devenir et vers où on va.
Alors ce livre s'appelle, je vous rappelle, Au contraire, et se veut un plaidoyer pour la pensée dans la science. C'est-à-dire que vous voulez dire que la science, bon, parfois on le sait, on lui reproche de ne pas trop penser, c'est-à-dire tout l'aspect épistémologique et philosophique qui manque aux sciences. Est-ce que c'est cela que vous voulez prôner, qu'il soit nécessaire d'y introduire ?
D'y réintroduire, oui, absolument. Je crois qu'on va tout de suite prononcer un mot dont je pense qu'il devra revenir assez souvent dans notre conversation, qui est le mot de culture. Et ce qui me fait problème, c'est un problème tout personnel d'ailleurs, qui est lié à une certaine frustration dans l'exercice de mon métier depuis ses débuts, voici quelques décennies. Jeune chercheur, j'ai été déçu par la science telle qu'elle fonctionnait, j'en attendais plus. J'en attendais en particulier plus de pensée, plus, c'est le sous-titre, d'exercice de la pensée. J'y ai trouvé évidemment de grandes satisfactions dans la description qu'elle fait du monde, dans un certain nombre de mécanismes formels très plaisants pour l'esprit, mais quant à au mode de questionnement que d'ordinaire on considère comme philosophique, j'ai été quelque peu déçu parce que je crois, et c'est ce que j'analyse alors cette fois-ci dans l'autre livre, la science est en train de subir une mutation en notre temps.
Dans quel sens ?
Qu'elle est en train de se techniciser. Non pas que j'ai le moindre mépris pour la technique, que j'admire énormément et sans laquelle, ce que nous disons ici, ne serait pas entendu par nos auditeurs en ce moment même. Donc j'ai le plus profond respect, au contraire, pour les capacités techniques de l'humanité, pour sa façon de maîtriser la matière, de la plier à ses désirs. Il n'empêche que l'on peut faire sans comprendre, c'est ce qui a été le cas pendant 2 millions d'années d'histoire de l'humanité où la technique, le savoir-faire a précédé le savoir. Et c'est une conquête relativement récente.
Et maintenant, c'est le contraire.
Que la dimension spéculative de la pensée, ça a été le contraire pendant quelques siècles où la pensée a peut-être pris trop le pas sur le fer, mais on est de nouveau dans un renversement aujourd'hui.
Alors voilà. On en arrive au terme donc, de cette émission. Il faut conclure. Jean-Marc Lévy-Leblond nous dit qu'il y a un nouveau renversement de la pensée, comme un balancier, et il introduit ce terme de technoscience. Alors peut-être peut-on lire les parties finales de ça. Tu veux lire d'abord, Sylvain ?
Oui, je veux bien. Donc effectivement, il y a un passage vers la fin du texte de Jean-Marc Lévy-Leblond où il explique bien le problème. Enfin, il introduit le mot technoscience, en fait, donc je cite. Il y a donc un véritable arraisonnement de la connaissance scientifique par ses propres résultats techniques. Ce que les historiens et sociologues des sciences contemporaines dénomment volontiers technosciences, et où il n'y a plus de distinction nette entre découverte et application, entre recherche et développement, entre le monde de la science et le monde de la technique. Donc ça c'est intéressant, hein, c'est la fin de la citation. C'est intéressant parce qu'en fait on s'aperçoit que depuis le XXe siècle, et notamment effectivement il donne l'exemple assez important qui marque un infléchissement, c'est la création de la bombe atomique, qui a été quelque part un projet sur commande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des États, en l'occurrence l'État américain, qui a demandé à des gens, à des scientifiques, de mettre au point une bombe. Et le fait est qu'ils ont réussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça montre qu'aujourd'hui, on peut demander à des scientifiques de faire des choses et d'arriver à des applications concrètes.
Alors ça, c'est très intéressant. Et le mot « projet sur commande » répond à un des mots que tu as lu, c'est le mot « arraisonnement », qu'il faut lire avec un fond, connaître le travail philosophique de Heidegger, parce que l'arraisonnement chez Heidegger, c'est la nature même de la science. Hein. C'est-à-dire que le monde n'est conçu que comme quelque chose à exploiter, à exploiter, parce que c'est un fond mathématique. Et la phusis des Grecs, c'est tout à fait autre chose que ça.
Et du coup, en fait, ce qu'explique Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est qu'on a eu pendant donc, effectivement très longtemps, des grandes périodes où c'était la technique, c'était une connaissance de savoir-faire. On a eu une parenthèse, entre guillemets, qui s'est ouverte un peu avec les Grecs anciens et puis surtout après avec la méthode de Descartes, sur la science, ce qu'on appellerait vraiment la science. Et on commence à avoir un infléchissement aujourd'hui où il commence à y avoir un retour à la technique d'une certaine façon. Et juste pour terminer ce raisonnement-là, il y a un passage, encore une fois, que je vais lire de Jean-Marc Lévy-Leblond dans son texte, qui explique ça, en fait, il dit bien, autrement dit, « Nous retrouvons paradoxalement, après deux siècles de couplage très étroit entre science et technique, un régime où le développement technique s'autonomise et où le développement scientifique se marginalise. La situation, étrangement, rejoint celle qui prévalait au Moyen-Âge, etc. »
Tout à fait. Anne, il y avait une autre partie que tu voulais lire qui avait attiré ton attention ?
Oui, alors il y en a deux. Il y a celle où il parle de l'astronomie fondamentale et puis le chapitre final.
Oui, donc, alors tu peux lire quelques mots sur le fait, est-ce qu'on sera encore là en fait, c'est ça, hein?
D'accord, alors c'est le chapitre final.
Le chapitre final, voilà.
Ainsi abordons-nous, ce me semble, une phase où se voit menacé l'avenir même de cette grande aventure humaine qu'a été la science des deux derniers siècles. Ce couplage exceptionnel entre la possibilité de connaître le monde et la capacité de le transformer. Il n'est pas évident que cette double potentialité perdure. Je vous rappelle le cas de Rome par rapport à Athènes. C'est là que le divorce de la science avec la culture prend tout son sens et montre tous ses dangers. Faute que la science retrouve son intégration dans une matrice culturelle plus large, faute que nous-mêmes, scientifiques, techniciens, ingénieurs, ayons une meilleure connaissance de l'histoire, de la philosophie, voire de la sociologie et de l'économie de nos sciences, nous risquons de nous retrouver sur la liste des espèces menacées de disparition.
Merci. Alors, c'est justement ce que ça exprime, c'est que ce n'est pas un simple retour, c'est quelque chose qui met en jeu notre existence même. Nicolas, tu veux conclure ? Deux mots pour la fin de l'émission.
Deux mots pour conclure, bien...
Juste quand tu dis notre existence, tu parles des scientifiques pour le coup.
Ah non, notre existence, les êtres humains.
C'est bien de préciser.
Ah oui, les êtres humains.
D'accord. Oui, parce que cette technique... très développée, finalement, si elle n'est plus comprise, elle risque de ne plus être maîtrisée. Et donc, on risque d'être maîtrisé par notre propre technique.
C'est ça, on risque d'être les objets de ces objets-là scientifiques.
C'est ça,
et
d'être nous-mêmes.
Merci.
Et donc, nos échanges ont permis peut-être de ne pas s'en arrêter à une certaine attitude nostalgique, qu'on peut peut-être voir dans le texte de Jean-Marc Nille-Bollon, mais de replacer ça dans le contexte du rapport au vrai et du rapport à la vérité.
Voilà, donc ça nous a donné un nouvel élan et je pense que ça ferait très plaisir à Jean-Marc Lévy-Leblon. Merci à toutes et à tous. Merci à Dominique Herpelding pour la technique. Rendez-vous le mois prochain, puisque maintenant nous avons un rendez-vous bimensuel. Pour les auditrices et les auditeurs qui sont à Nancy, je rappelle la conférence de Jean-Marc Lévy-Leblon le 3 octobre, Science et Pouvoir. Rendez-vous à 20h, cours Léopold, place Carnot. Merci, au revoir.